Je m'appelle Carl, je suis un expert.
Vous êtes venu réparer le câble ?
Mon Dieu, je vous laisse imaginer la suite.
Il répare le câble.
Vous arrivez peut-être même pas chez vous. Vous vous pointez avec trois quarts d'heure de retard, pas toujours, pas merci. Vous filez tout droit au frigo, vous prenez la dernière bière. Vous êtes un sacré sans gêne.
Merci.
Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Triphasé, le podcast sous tension, mais sans pression. C'est la première, j'ai le plaisir d'être accompagné de mes deux camarades avec qui on a préparé cette émission. Guy, comment ça va Guy?
Ça va et toi Antinou?
Ouais, ça va, super, merci beaucoup. C'est vrai que je ne me suis pas présenté, alors j'aurais pu quand même commencer par ça. Moi c'est Tinou et on est aussi accompagné de Crossfell. Crossfell, comment
salut,
ça va?
Bah tranquille, écoute, je suis bien accompagné, et ouais, bah, j'ai à boire.
Hein, bah, c'est bien. Marrant parce que j'ai le même sentiment. Tiens, d'être bien accompagné. On va passer une heure et quelques ensemble à parler de tout, de rien, mais surtout de tout, et de tout à propos d'un sujet choisi par notre ami Guy. Alors Guy, de quoi est-ce qu'on va bien pouvoir causer aujourd'hui? Dis-nous tout.
Alors le grand sujet du jour aujourd'hui, ça sera les théories du complot, un élément vachement vaste et vachement d'actualité aussi, donc j'espère qu'on va avoir pas mal de petits débats intéressants.
Bah en tout on va y travailler. Donc pour vous expliquer globalement, Triphasé, ça va être plusieurs personnes autour d'un thème, et ce thème sera traité à loisir par les uns et les autres. Chacun a choisi sa petite manière d'aborder la thématique. Donc Guy, comme ça pour nous teaser de comment est-ce que tu vas aborder la chose, raconte-nous tout.
Alors moi, je vais vous parler surtout d'un angle un peu plus général de ces théories du complot, et notamment de tout ce qui s'est passé à partir du 11 septembre, et notamment en France. Un axe vachement intéressant en France, mais dans le monde aussi.
Alors, il faut savoir que là, vous ne le voyez pas en vrai, mais il a des écailles. Hein. Enfin, moi, je le connais, mais c'est un reptilien.
Ouais. Ça, c'est la deuxième théorie du complot que j'évoquerai tout à l'heure aussi, et notamment d'un cher président qui est mort et qui était reptilien.
D'accord.
Donc c'est d'actualité, c'est aussi.
C'est une des théories dont tu aimerais débattre.
On pourrait en causer.
D'accord, très bien, ok. Alors pour ma part, j'ai décidé d'aborder le thème d'une manière un peu plus, on va dire un peu plus légère. On va parler de rock'n'roll. Voilà, je n'en dirai pas plus.
Ça va zouker.
Ouais, ça va zouker, ok. En tout cas, ça va swinguer.
Moi, je zouk surtout.
C'est ça. On va écouter de la bonne musique et on va surtout parler de complot. Ben voilà, on est aussi là, on est surtout là pour ça, c'est le thème qui a été abordé. Et toi Crossfell, du coup comment tu vas aborder la thématique?
Moi j'ai pas en dire beaucoup pour garder la surprise, mais j'ai abordé ça au niveau du jeu vidéo.
D'accord. Ah. Très bien. Et ben c'est bien chouette. J'ai hâte d'entendre ce que vous avez préparé. Et pour nous accompagner, parce que voilà, on va pas se cacher, il est 21h pile poil. Là à l'instant, l'information vient de tomber. Et ben c'est un peu l'apéro.
Ouais.
Donc on a décidé de prendre l'apéritif.
Et donc j'ai aussi choisi avec le sujet du jour une petite bière spéciale qui va nous accompagner. Donc c'est une IPA, on est un peu tous les trois amateurs d'IPA autour de la table, et c'est pour une fois lié au thème, elle s'appelle l'IPA Citra Galactique, elle est à 6,5 degrés, donc pas très forte, par contre elle a 65 d'ABU, donc on commence un petit degré d'amertume. Ça vient de la brasserie du Grand Paris. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a déjà goûté des bières de la brasserie du Grand Paris. Et notamment, on a goûté la Nice to Meet You, qui est une double IPA en bouteille, ouais, à 8,5 degrés, à 90 d'ABU.
D'accord.
Donc, niveau d'amertume, pour placer un peu pour les novices, l'amertume, elle se fait de 0 à 100. Une lèvre, c'est 9-12. 90, on commence à manger de l'amertume. Là, on est sur un classique, donc avec des petites notes de citron. Donc, on va déguster ça tranquillement. Je l'ai choisi pour un petit coup de cœur parce que les logos qui font les dessins sur les bouteilles sont magnifiques. Et là, c'est un petit vaisseau spatial avec un alien
tout à fait
à l'intérieur et un humain qui se fait kidnapper.
C'est vrai que l'étiquette est bien canon. Donc, c'est l'IPA Citra Galactique. Vous pouvez regarder à quoi ça ressemble. Et surtout, bah, évidemment, je vous conseille de la goûter à l'occasion. cases. Et bah, mais écoutez, avec modération. Les gars, oui, bah, évidemment, c'est l'abus d'alcool est étant dangereux pour la santé. Bah, écoutez, les gars, je vous propose de trinquer maintenant. Clac. À la vôtre, et puis bah oui.
Moi, l'illustration, elle me fait grave penser à Mars Attack. Quoi.
Oui, c'est vrai qu'il y a, un peu de ça.
Je sais pas si vous regardez, mais c'est une autre soucoupe qui est au fond qui fait un gros drift ou.
J'ai une soucoupe dans une soucoupe.
Non, au fond, là, juste à gauche, en arrière-plan, on dirait une soucoupe, mais genre verticale.
Ah, donc je vois pas. Ah,
on dirait qu'il y a drift.
Ah, ben non, alors moi, j'ai surtout l'impression que c'est un défaut d'impression de ton étiquette, parce que moi, j'ai pas du tout la même chose.
Ah, bon, bah. Oh,
alors, faut dire que Romain a pris l'apéro avant de venir. Ah,
désolé, bah, oui. Grand Paris. C'est ça. Votre logo, c'est de la merde, en fait.
Et je vous conseille d'aller voir un peu toutes les bières du Grand Paris. Ils ont des éditions spéciales qui sont vraiment canon et toutes les étiquettes sont bien léchées. Donc voilà.
Ouais, et nous on aime ça, lécher les étiquettes.
Ouais. Donc voilà, l'IPA et Citra Galactique, on vous fera un petit topo à la fin de l'émission pour vous donner notre aperçu sur ce petit brassin. Et en attendant, eh ben, c'est Tanguy qui va nous envoyer sa chronique. C'est parti.
Donc tout simplement, est-ce que les gars, vous avez déjà entendu parler de Lyndon LaRouche?
Alors, Pas du tout.
Rien du tout.
Moi, tu me dis LaRouche, ça me fait penser à Take Shelter. Je sais pas si t'as déjà vu ce film. Je crois que c'est le nom de famille du héros de Take Shelter. Donc, ça n'a strictement rien à voir avec le thème.
si je vous dis le mouvement LaRoucheiste, non, toujours pas plus.
Toujours pas. Moi, ça me dit rien.
Si je vous dis Jacques Cheminade, par contre, ça commence à causer.
C'est-à-dire que j'ai voté pour lui. Donc.
Voilà. Alors, donc, si t'as voté pour lui, il faut savoir que t'as voté pour une secte. Selon l'UNAFDI, donc l'Union nationale des associations de défense des famille et de l'individu victime des sectes. En fait, Jacques Cheminade, son parti qui est Solidarité et Progrès, s'est affilié secte directement. Pourquoi on parle de Cheminade ? Parce que c'est le plus fervent défenseur de Wyndon LaRouche en France et du mouvement LaRoucheiste. Le mouvement LaRoucheiste, c'est quoi ? Alors Wyndon LaRouche, tout simplement, c'est un homme politique, essayiste et polémiste américain. Donc jusque-là, rien de normal, rien d'anormal. Selon lui, tous les maux de la Terre sont reliés à l'Empire britannique et à la Reine d'Angleterre. Donc, c'est assez facile. Genre, les trafics de drogue, de cocaïne, c'est la Reine d'Angleterre.
Oui, les mots voilà. Dans le sens mal.
Oui, d'accord.
Ah oui, les mots...
Pas dans le sens vocabulaire.
M-A-U,
non, pas dans... Ouais. Non. Donc voilà, la première cause, l'Empire britannique. Donc, la personne qui gère la drogue au niveau mondial, c'est la Reine d'Angleterre, voire la monarchie. Bon,
ouais,
ok, jusque-là. Un petit classique des familles, le réchauffement climatique... Ça n'existe pas non plus. Donc ça, voilà. Le contrôle de l'économie, c'est une grande organisation. Cette grande organisation est forcément gérée derrière par la Reine d'Angleterre qui s'en met plein les fouilles. Donc voilà, c'est un peu les théories classiques de Wyndon LaRouche, donc qui les a disséminées depuis des années au sein des États-Unis, au travers d'émissions politiques, à la radio, etc. Notamment, on en a entendu parler beaucoup sous la présidence Barack Obama, où il a fait la comparaison entre Hitler et Obama. Selon lui, Obama était une réincarnation d'Hitler.
Ouais, c'est la moustache, ça.
Voilà, c'est exactement ça, et la couleur, et que Obama était aussi chef d'un gang organisé, donc qui l'avait mis au pouvoir aux États-Unis.
D'accord.
Donc, ce monsieur a des idées qui sont assez farfelues, mais qui... ont un point commun avec Jacques Cheminade, en fait, c'est que tout se base à partir du 11 septembre 2001, en fait, autour de ces attentats et va diffuser un écho comme quoi tout vient d'un ordre mondial supérieur, donc pour Wyndon LaRouche, la Reine d'Angleterre. Pour Jacques Cheminade, on n'en est pas jusque-là, mais il y a quelque chose de bizarre. En France, à partir du 11 septembre, on va avoir quelques personnes qui vont commencer à s'intéresser au sujet. Et on va avoir notamment Thierry Messant. Alors ça, je vous conseille de regarder un peu ce que ce bonhomme a fait sur Internet. Ça va très loin. Cliquez pas sur tous les sites. Regardez pas tout au premier degré.
Pourquoi
c'est un peu violent.
Pourquoi cliquez pas sur tous les sites
Ce monsieur-là, en fait, a écrit notamment L'effroyable imposture. Alors c'est un livre magnifique qui explique que le 11 septembre n'a jamais eu lieu. Et que ce ne sont pas des attentats terrorisme, ce sont des attentats intérieurs. Et en fait, c'est la personne qui, en France, va amener vraiment grandes théories du complot.
D'accord, l'idée que les États-Unis, que c'est la présidence des États-Unis qui a envisagé les attentats du 11 septembre.
Qui les a, pas envisagés, qui les a réalisés.
Oui, c'est ça, oui.
Donc lui va montrer par faits et gestes pourquoi. Et si on regarde énormément de vidéos de ces époques-là, en fait, Thierry Messant, ce Français qui vient de nulle part un peu, a été invité dans plein d'émissions de télé et à relayer petit à petit plein d'informations. Je vais vous dire une anecdote personnelle. Pendant très longtemps, moi, j'ai pas eu internet très tôt, et une des premières vidéos que j'ai vues et que j'ai de mémoire, en fait, c'est après le 11 septembre, des explications comme quoi les tours avaient explosé de l'intérieur. Vidéo très simple, hein, disons, bah regardez au ralenti, ici ça explose à cet endroit-là, c'est des pylônes qui font 14 mètres de haut, pile poil pour rentrer dans des camions et être évacués après. Et donc en 2001, je me suis dit, tiens, c'est marrant, enfin, je sais pas, tout ce qui est sur internet, c'est vrai, quoi, il n'y a pas de recul, quoi.
Aïe.
Et cette personne-là a développé énormément de théories comme ça. Et en fait, pour en avoir discuté avec plusieurs personnes et également un dessinateur de BD Run, à partir du 11 septembre, en France, tout a changé. On arrive sur des théories du complot, on arrive sur de l'Internet qui va un peu plus vite, et du coup, on arrive à une diffusion d'idées qui sont plus que farfelues. Et donc, le 11 septembre est un peu la clé de voûte de tout ce qui s'est fait autour. Donc Thierry Messant, petit à petit, a évolué dans d'autres cercles. Il avait créé un cercle qui s'appelle le Réseau Voltaire. Donc pareil, si vous allez vous renseigner là-dessus, c'est très intéressant, mais c'est très touchy. On arrive sur des anti-sionistes, c'est des choses comme ça, des ingérences gouvernementales. Enfin, on arrive sur du très très haut niveau, hein, des copains, on va dire, de Soral, Dieudonné, ces choses-là. Où
d'accord.
On arrive sur des niveaux de réflexion qui sont très bloqués, très butés. Donc, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'à partir de ce réseau-là, il y a beaucoup de théories du complot qui vont être diffusées en France. Et on en voit de plus en plus, un peu tous les jours, nous, dans nos entourages. Et notamment en France, a priori, d'après certains sondages, et notamment un sondage de l'éducation France TV, en France, il y a 65% des personnes qui croient à une théorie du complot.
C'est-à-dire à une théorie du complot à...
Parmi une liste,
d'accord,
que je vais vous citer,
d'accord, hein, très bien,
qui sont marrantes. Si vous ne les connaissez pas, on peut en parler. Donc la zone 51,
okay, dont on vient de parler assez récemment quand même.
Grâce à la classe de CM2 qui a été se balader dans le coin...
Petite course Naruto, les gars.
On les salue d'ailleurs, oui, ça, que ça donne lieu à des super templates de mèmes.
Donc voilà.
On adore.
Donc, on vous donne rendez-vous dans Passion Mème, notre prochain podcast.
C'est ça.
Le deuxième élément, ça peut être les chemtrails. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça.
Juste de nom.
Alors les traînées d'avion.
Ah oui, oui, d'accord, okay.
La théorie des traînées d'avion. Donc ceux qui ne connaissent pas, en fait, a priori, les traînées d'avion ne sont pas créées par des réacteurs, mais par des produits chimiques que les gouvernements mettent dans les avions. Donc c'est des avions vides de passagers qui circulent. Et on envoie du produit chimique pour faire du contrôle d'esprit et sur des populations complètes.
Et c'est comme les avions qui font les bandages, etc. En fait, c'est le même principe.
Donc si vous voyez beaucoup de traînées dans le ciel... vous mettez un mouchoir sur la bouche et vous respirez pas trop, quoi.
Ça, si vous voulez traîner, ne traînez pas dehors.
D'accord.
Donc ça, la mort d'Hitler. Hitler n'a pas été tué, donc ça tout le monde le sait. Hein. Il a été vu quelques années plus tard en Amérique du Sud.
Oui, enfin comme plein de ses potes, hein, de toute façon.
Voilà.
Mais a priori, il organiserait des soirées disco avec Michael Jackson aussi. Hein.
Voilà. Donc théorie du complot au sens large, on peut inclure toute mort de personnalité, mort bizarre, les Didi. Hitler, Michael Jackson, donc ces morts-là,
toutes les
soit accidentelles, stars, ouais, soit pas prouvées, alimentent toujours une théorie du complot. Ensuite, on a un peu tout ce qui est les morts de JFK, donc là, un sujet très intéressant, moins en France, mais beaucoup plus aux États-Unis, où là, vous avez des pelletés de films, des pelletés de...
Sur la balle magique, tout ça, ouais.
Sur le nombre de tireurs, en fait, trois tireurs simultanés, non, un seul, un par la CIA, enfin voilà... À se renseigner, c'est vraiment intéressant. On peut partir dans toutes les directions. Il y a pas mal de films, de documentaires là-dessus aussi qui discutent de ce sujet-là. Le sida, la théorie est comme quoi le sida n'existe pas vraiment, en fait, et c'est juste un complot pharmaceutique et médical. Donc, voilà.
Enfin, c'est pharmaceutique, pas sûr. Ouais, moi non plus, ouais. Pharmaceutique, oui.
Que, en fait,
les thérapies maintenant, mais c'est pas non plus un soin qui est extrêmement
en fait que le sida
ancien,
a été occulté par des industries pharmaceutiques dans le but dans quelques années de contrôler une population complète contaminée entièrement par le sida, donc en l'occurrence
et
l'Afrique,
capitaliser
dessus sur le long terme. Bon, on en pense ce qu'on veut. Marcher sur la lune, Ouais, donc ça c'est, moi je la trouve mignonne cette théorie parlant de Kubrick.
Oui, c'est ça, ouais, c'est ayant réalisé toutes les images derrière.
Le fantasme est joli parce que les images sont belles, on trouve plein de preuves, hein, les ombres, le vent.
Ce qui est ouf, c'est que comme tu fais des scènes assez générales, je pense pas que tu vas revenir dessus, et Tino et moi non plus. Ouais. Mais ce qui est vraiment très moche, et c'est que la théorie du complot, à partir du moment où tu rentres dans ce principe de complot, quoi qu'il arrive, tu ne pourras jamais en sortir, en fait, parce que toutes les preuves qu'on va te donner, tu vas dire, bah non, en fait, elles sont fausses. Et là, quand tu parles de la Lune, alors je sais pas si tu vas en parler, mais ce reportage d'Arte,
pas plus,
du 1er avril 2004, je crois, il est sorti un 1er avril, c'est un documentaire qui montre que personne n'a marché sur la Lune, justement. Mm. Et cet argument qui a été fait, produit et diffusé un 1er avril par Arte, justement pour montrer à tous ces complotistes qu'on pouvait faire dire ce qu'on voulait à des images, est en fait aujourd'hui un des premiers arguments des complotistes pour dire, regardez,
les médias,
il y a un documentaire sur le fait qu'on n'a pas marché dessus, en fait. Et les gens, tu as beau leur expliquer, mais non, mais regardez, ça a été fait exprès, c'est pour se foutre de votre gueule, c'est pour vous montrer la puissance du média. Enfin, ce documentaire-là, renseignez-vous et regardez-le, parce que, pour le coup, regardez-le, parce qu'il est vraiment très très bien fait. Mais c'est-à-dire qu'il est vraiment fait pour montrer la puissance de la télévision de l'époque, en fait, sur les masses. Et en fait, malheureusement, ça a beaucoup trop bien marché, quoi. Enfin, et c'est dingue, quoi. Moi, je n'en reviens pas, en fait. Enfin,
Mais en préparant l'émission, on en a parlé vite fait avec toi, Tinou, et notamment du problème du débat d'idées. Et je crois que toi, tu as rencontré un platiste, un vrai de vrai. Ils existent. Hein. C'est l'autre théorie que j'allais évoquer, hein, derrière les platistes, hein, ceux qui croient que la Terre est plate. Et tu n'as pas pu parler.
Bah, en fait, le truc, c'est que... Mais là, malheureusement, tu es confronté aussi au fait qu'il y a des choses qui te paraissent tellement évidentes quand on te confronte à, pardonnez-moi, mais à une telle connerie, que tu te retrouves vide d'arguments et de matière pour débattre avec la personne en question.
Et puis sans être soi-même un physicien ou un astrophysicien,
bah bien sûr,
c'est pas évident de tout expliquer non plus, quoi.
Complètement.
Non, mais tu vois, moi je connais quelqu'un qui a pris l'avion avec un niveau. Le niveau est resté plat tout le long du vol, donc forcément la Terre est plate. Enfin, tu vois.
Oui.
Donc à partir d'un moment, tu peux dire ce que tu veux à n'importe quoi, si tu sors de ton contexte. Hein, c'est
tu vois, problème. Si tu pousses un petit peu plus loin le platiste ou si t'es juste ça fait ta remarque.
Non, c'est le platiste, mais comme tout.
Enfin, je sais pas si vous l'avez vu aussi, mais je vous conseille de regarder le documentaire Netflix de Behind the Curve, qui est juste mais superbe, quoi. Je l'ai regardé quand il est sorti, ça devait être l'été dernier, je crois. Et je l'ai re-regardé pour l'émission, parce qu'au départ, je voulais parler des platistes, et finalement, j'ai zappé. Mais ce documentaire est juste génial, parce que ça montre encore une fois que n'importe qui, même des gens qui ne sont pas cons à la base, peuvent se mettre à penser des choses n'importe quoi, en fait. Enfin, et... Il y a 2-3 expériences que les platistes tentent dans le documentaire. Alors, je ne vous spoilerai pas la réussite ou non de ces expériences-là, mais c'est-à-dire que même confrontés à la réalité de leurs soi-dites sciences, en fait, en se disant « Ok, on va faire telle expérience parce qu'on sait que tac, ça va marcher comme ça, donc on va avoir tel résultat », à la fin, s'ils n'ont pas le résultat, la première chose qu'ils vont penser, c'est de se dire « Ah bah merde, en fait, l'expérience n'a pas marché. » Et les mecs ont beau refaire l'expérience dans d'autres conditions, etc., etc., à chaque fois, ça donne le résultat qu'ils ne veulent pas, en fait.
Ouais, c'est l'histoire du faux positif, quoi.
Non, mais c'est vraiment
tu
ça.
Tu cherches le faux positif en disant « Une fois sur 100 essais, c'était avéré, donc forcément, c'est avéré, mais quoi. »
C'est surtout qu'ils ont typiquement le comportement inverse d'un scientifique. C'est-à-dire que le scientifique va dire « Ok, mon protocole, c'est ça. Bam, je le fais. J'ai tel résultat. Bon, pour éviter que ça soit fait qu'une seule fois, je vais refaire mon protocole X fois et je vais voir combien de résultats différents j'ai. » Eux partent du principe que c'est pas le protocole, ils s'en fichent. Ils ont le résultat, en fait. Le résultat, c'est la Terre est plate. Maintenant, comment est-ce que je fais pour prouver que la Terre est plate? Et c'est dingue. Et c'est-à-dire que un des premiers arguments qui fait que ces gens sont dans le flou, sont dans le vague, c'est que même parmi eux, il y a plein de théories différentes, en fait. La théorie du dôme, la théorie du soleil au milieu, la théorie du truc plat, de la Terre qui serait que... Oui, c'est ça. Et tu te dis, mais... Ok, bon, d'accord, partons du principe qu'elle est plate. Mais vous êtes bien... Enfin, il faut bien vous rendre compte que si vous ne pensez pas tous la même chose... c'est que l'une de vos théories, même entre vous, est fausse, en fait. Et c'est vraiment compliqué, quoi. Mais c'est dingue, en fait, que des gens arrivent à... Enfin, en Europe, en France et tout, c'est pas encore très, très poussé comme moyen de penser.
Le platiste, non, mais il y a d'autres théories qui sont... Qui
mais
sont
platiste aux États-Unis, ça, c'est un mouvement, mais de fou, vraiment qui est dingue. Il y a vraiment une grosse portion de la population qui pense à, en vrai, quoi. Ça fait peur, quoi.
En nombre de grosses portions de population aussi, moi je m'étais noté, ce qui est assez marrant, oui et non, c'est...
J'ai peur.
Jean-Michel Humour.
Voilà. C'est les créationnistes. Vous connaissez un peu...
Alors, oui. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une théorie du complot quand tu parles du créationnisme?
Non, mais en fait, ça rentre dans une éducation... En fait, je me l'étais mis en bas de ma fiche, mais du coup, quand on parle de masse, c'est quand même les créationnistes, c'est 38% des gens aux États-Unis d'après des sondages assez D'accord. récents. J'ai pas les archives. Le Monde en parle et j'ai pas eu le temps de noter aujourd'hui la source de ça, mais on parle de la puissance du média derrière. Les créationnistes, depuis 2016, ont construit une arche de Noé.
Ah oui, d'accord, donc ils sont en train d'essayer d'expérimenter l'arche de Noé ou...
Non, c'est pire que ça. Donc l'arche de Noé qu'ils ont construite, elle fait de mémoire, elle est plus grande qu'un terrain de football de mémoire, en longueur.
Genre un baby-foot
ou... Ouais, un grand baby-foot humain, quoi. Donc c'est au Kentucky, c'est assez marrant, les images sont assez impressionnantes parce que c'est l'une des plus grosses architectures en bois qui a été construite par l'homme depuis... assez longtemps. Et en fait, ils en ont fait un parc d'attractions.
C'est trop D'accord. bien, ça.
C'est magnifique. Mais genre, le bateau est sublime. Sauf qu'à l'intérieur, ils développent les idées du créationnisme.
D'accord.
Comme quoi, en fait, les dinosaures, oui, ils ont existé. Mais c'est Dieu qui les a créés le sixième jour, en fait. Et en fait, on parlait de la puissance du média. C'est pas une théorie du complot en soi, le créationnisme. C'est une croyance, comme quoi, tout découle de Dieu.
Parce que là, on part dans le religieux.
Ouais. Ouais, oui, mais le mécanisme de réflexion, en fait, est le même que les théories du complot. Ils vont questionner des choses et des faits qui sont scientifiques, qui sont avérés, pour retomber sur leurs pas. Donc, il y a quelques années, les créationnistes niaient l'existence des dinosaures. Et devant tant de preuves, devant tant d'ossements, etc., se sont dit « Ah, si, en fait, ça existe. En fait, on s'est trompé. Ils existent bien. » Mais c'est Dieu qui les a créés. Et en fait, les dinosaures sont mal datés parce que leurs os, c'est pas exactement ça. Donc en fait, il y a eu des humains et des dinosaures en même temps. Et donc en fait, on est là, j'évoquais ce sujet-là parce qu'il n'est pas dans les théories du complot, mais dans l'éducation de la masse, il fonctionne comme une théorie du complot. En théorie du complot, qui est assez intéressante, et ça, je vous conseillerais juste le podcast de Distorsion dessus, c'est le Pizzagate. Et je crois que c'est la plus belle théorie du complot qui existe, comme quoi dans l'entourage d'Hillary Clinton, il y a un réseau pédophile et un réseau pédopornographique.
Ça me dit quelque chose.
Ah oui,
ça.
Avec les noms des pizzas qui correspondent aux gamins.
Grâce, en fait, il y a eu pendant la période des élections des mails qui ont été leakés et dans 2-3 mails, ils ont trouvé des noms de pizzas. Des pizzas avec de l'ananas et tout, au milieu de conversations qui n'avaient rien à voir. Bim, 4chan, Reddit, et là, en avant la théorie du complot. Et donc, en fonction du type de pizza évoqué dans le mail, dans le corps du mail, en objet texte, ça voulait sélectionner plus ou moins un enfant en âge, etc. Donc là, ça va très très loin dans la théorie du complot. Mais cette théorie, elle est très ancrée aux États-Unis à cause de médias qui ont brassé.
Alors que son kiff, c'était peut-être juste le pizza hut, quoi.
Juste la pizza à l'ananas, quoi. Voilà. C'est...
Ce qui est déjà criminel.
En soi, c'est criminel.
Si c'est bien ça, heureusement qu'elle n'a pas été élue, quoi.
Ouais, c'est... Ouais. Bah, voilà. Aux États-Unis, il faut savoir que par rapport en France, les théories du complot, elles sont quand même bien plus développées. Il y en a partout. Et il y a une raison à ça qui serait ancrée a priori. Ça serait les mensonges d'État qu'il y a déjà eu. Et deux grands mensonges d'État, notamment le Watergate, où, voilà, bah, en effet, Nixon était a menti à ce moment-là. Donc, la masse en soi de population s'est dit, bah, on nous a menti une fois, pourquoi on nous mentirait pas une deuxième fois? Et la deuxième, un peu plus récente, notamment Bush, avec toutes les armes de destruction massive pour aller envahir Saddam Hussein. Donc, à partir du moment où l'État a menti une fois, pourquoi l'État mentirait pas une deuxième fois? Et donc, ça rentre dans tout le mécanisme de la théorie du complot. C'était qui sont... À qui ça profite? Est-ce que le gouvernement n'est pas derrière ça? Et pourquoi ça maintenant? Ces trois questions-là vont revenir à chaque fois de la théorie du complot. Oui, mais pourquoi? Mais ça profite forcément au gouvernement. On peut aller sur n'importe quel sujet comme ça, les attentats, le nucléaire, les éoliens. Il y a plein de théories du complot qui vont pondre juste parce que bah, c'est comme par hasard. À ce moment-là, il arrive ça. On en rigole maintenant, mais parce que c'est ancré presque en nous de se dire « Tiens, c'est marrant, Jacques Chirac, il est mort là, mais il y a une usine Céveso qui a brûlé. Bah, » c'était pour taire les informations. Et bah, forcément, plus on relaie ces informations, plus on arrive à un niveau de méfiance et plus des théories du complot vont en fait pondre petit à petit. Donc c'est vraiment un mécanisme. Et à l'heure actuelle, à l'heure des fake news, etc., la diffusion d'informations va tellement plus vite que dès qu'on balance un faux documentaire ou une blague, très vite, bah, s'il n'y a plus de source, ça va passer en information en fait dure, quoi. Donc le mécanisme de la théorie du complot est toujours le même. Et ça revient également depuis très très longtemps. Est-ce que vous savez, les gars, quelle est la première théorie du complot française? Et elle est avérée.
100% française.
100% française. Et elle date, c'est une théorie du complot, on appelait peut-être pas ça à l'époque théorie du complot.
Et qui s'est avérée vraie à la fin ou...
Non, pure théorie du complot.
Théorie du complot française.
Pure française. Très importante dans l'histoire de France. C'est une date que vous connaissez par cœur.
C'est un truc qui a un rapport avec la Révolution française, hein.
Exactement.
Ah ouais?
La première théorie du complot française, franco-française, c'est au propos justement de la Révolution française. Et comme quoi 1789 n'est pas un mouvement spontané. Et qu'en fait, ce mouvement-là... C'est assez intéressant, j'ai pas eu le temps d'approfondir ce sujet-là, mais il est avéré depuis quelques années que la première théorie du complot est ça. Donc en fait, 1789 n'a pas été un mouvement spontané, bien au contraire. En fait, ça a été une conspiration anti-chrétienne via les francs-maçons. C'était le seul moyen pour les francs-maçons de prendre le pouvoir,
d'accord,
de virer les chrétiens du pouvoir avec une révolution.
Mais c'est pas une théorie qu'on applaudit, ça.
Voilà. Mais du coup, d'où c'est né? Qui a fait naître ça et pourquoi?
Alors, j'ai pas eu le temps de regarder un peu plus, mais j'ai commencé à mettre le doigt dedans et je me suis dit, mais c'est génial, c'est génial. Et c'est avéré par plusieurs bouquins d'histoire actuellement que la première théorie du complot française est celle-là, et la Révolution, comme quoi ce sont des francs-maçons qui, derrière tout ça...
Oui, leur... donc on est d'accord, c'est quand même une théorie contemporaine c'est sur quelque chose d'ancien,
alors,
en fait.
C'est... A priori...
Elle date quand, cette théorie?
Elle est assez vieille.
Ça serait assez... Ouais.
Elle serait presque d'époque, en fait.
D'accord. Ben justement, ce sera intéressant de savoir de qui ça a émergé, parce que je... Enfin, eu égard à la situation en fait qui a mené à la Révolution française, qui était quand même une situation de finances infernale pour
une vraie révolution,
pour la
réalité, quoi,
etc. Qui a pointé du doigt les francs-maçons en se disant c'est eux qui ont mené la Révolution qui ont amené la Révolution française, alors que voilà,
ou l'inverse.
Oui, c'est ça, oui.
Peut-être des chrétiens qui ont dit hey, « en fait, c'est les francs-maçons
». Voilà, on revient toujours sur un double jeu d'accusations, comme dans toutes les théories du complot.
Et puis comme toutes les théories du complot, de toute façon, on ne saura jamais.
On ne saura jamais, peut-être que c'est vrai. Mais après, voilà, il y a quelque chose qui est important, et je pense que je vais clôturer un peu ma partie là-dessus. C'est que chaque théorie du complot, il faut penser, ou chaque chose que vous postez, chaque chose que vous... discuter entre vous, partager sur les réseaux sociaux, il faut débunker. Il faut vraiment vérifiez tout ce que vous faites. Alors c'est simple, hein, y a des outils très bien pour ça. Il y a Hoaxbuster, il y a AFP Fact, il y a les décodeurs si vous êtes plus Team Le Monde, il y a Désintox si vous êtes plus Team Libé, il y a les observateurs sur France 24. Il est très important de débunker chaque chose et de vérifier les faits un par un avant de les partager, et notamment sur des sujets qui sont sensibles. À partir du moment où un article va commencer par « comme par hasard, ce jour-là », bah là, vous êtes sûr que vous êtes dans une début de théorie du complot, quoi. Il n'y a pas plus loin, quoi. C'est comme il était une fois. Mais
et c'est le moment de faire du fact-checking.
Voilà. C'est très, très important de faire du fact-checking et de croiser les sources, quoi.
Et puis là encore, t'as parlé vite fait d'une petite liste de complots qui sont mis à part passer pour un con. Ça ne sera pas très grave, tu vois. Mais. Imaginons que tu partes quand même sur des trucs de anti-vax et tout. Enfin, là, tu peux commencer à devenir dans des problèmes de santé sanitaire, de toi, de ta famille, de
ah oui, oui.
D'un pays, en fait.
On a évoqué que les grands, mais si vous allez sur des théories du complot, on peut aller très très loin. Il y en a une très récente, moi, qui m'a fait beaucoup rire et que j'ai regardé de loin. C'est sur Melania Trump. Je sais pas si vous avez regardé un peu ça. La femme de Trump.
Ouais. Ouais.
En fait, elle était prisonnière.
En fait, comme moi.
Ah oui, d'accord, ok.
Elle n'est pas... Et donc, il y a toute une théorie...
Là contre son gré, quoi.
Ouais, elle est là contre son gré, mais voire même remplacée par un sosie, en fait.
Ouais. Et bah, on va en parler après.
Et c'est bien. Il y a eu tout un... Voilà, c'est pour ça que j'y pense d'un coup. Mais ouais. Cette théorie, elle est magnifique. Allez voir, il y a des vidéos explicatives de pourquoi elle est prisonnière, pourquoi c'est un sosie de tel jour à tel jour, parce que finalement, elle fait 2 cm de plus. Mais c'est... C'est grandiose.
Bah, c'est comme moi, hein. J'ai une cicatrice à l'arcane parce que j'étais enlevé quand j'étais plus jeune. Les mecs avaient des chiens, je me suis battu, tout ça.
Donc pensez à débunker les sources et à les croiser pour n'importe quel sujet. Et il y a des sujets qui sont graves, notamment les anti-vax.
Vaccinez-vous. C'est des enjeux, on va dire.
De santé publique et santé personnelle.
Tout
quoi.
À fait autre, absolument. Oui, merci Tanguy. Merci pour, cette chronique super intéressante et suscitant débat, c'est vraiment 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 chouette. On va enchaîner avec une petite interlude. Romain nous a préparé quelque chose.
Ok, alors en petite interlude, j'ai préparé une rubrique qui s'appelle Spoiler Alert. Alors Spoiler Alert, à quoi ça correspond? Je vais vous raconter un film, mais depuis la fin. Vers le début.
Mais pourquoi? Merci pour l'alerte. Ça va commencer.
Donc,
ça va commencer très fort.
Donc,
et l'objectif, c'est de deviner les coups. Ouais.
Bah, ouais. Si vous trouvez, c'est cool. De toute façon, à la fin, vous allez savoir puisque je vais donner le nom des personnages.
Alors, Wolf, tu peux t'éloigner pendant 2 minutes 30 environ. Pas pour toi cette chronique.
Bon, c'est un film qui est suffisamment vieux pour, je pense, qu'il y ait prescription de spoil. Mais si jamais le podcast continue et que c'est moi qui continue, personne n'est à l'abri que je bombarde un peu partout.
C'est ça.
Ouais, dans Avengers, il meurt à la fin.
Cultivez-vous avant qu'on balance trop de spoilers.
C'est ça. Allez, bon, je me lance. Si vous chopez le film, vous dites que vous l'avez et puis on se le garde pour la
fin. Ça roule.
Alors, c'est l'histoire d'une ado qui vit dans un orphelinat. Le regard des autres filles n'entend pas bienveillant. Elle décide de partir et emmène son pied de fougère préféré.
Ah, je l'ai.
Elle prend contact avec un Italien à New York pour trouver un endroit où pour vivre. Il donne l'adresse d'un homme qui vit seul.
Ah, c'est génial.
Et en qui il a pleinement confiance. Quand elle arrive sur place, l'appartement est pris d'assaut par la police et des unités spéciales. Elle arrive à rejoindre son futur colocataire en passant par les murs. Solution un peu compliquée pour rien, puisqu'arrivée en haut, les forces de l'ordre sont parties. Pour se venger d'avoir ravagé leur logement, ils vont braquer le commissariat et voler leur repas. C'est le début de leur vie à deux. Entretien des armes, ménage, jeux, pinte de lait. Le duo de tueurs à gages fonctionne très bien. Mais un jour, la police vient agresser les voisins. Le gros voisin fournissait un ripou en drogue. La petite s'attache au petit dernier du couple de voisins et décide de vivre avec eux. Léon, lui, se retrouve tout seul et continue à exécuter les contrats.
Je l'avais.
Ah merde. Alors oui, du coup, je m'en suis douté parce que dès que t'as parlé du lait, en fait, j'ai capté.
Ouais. Alors j'ai mis la petite fougère.
C'est le plan de Fougère qui m'a, voilà, qui m'a grillé dedans. Clairement. Cette histoire est géniale dans ce sens-là. Elle est horrible.
Ça a surtout aucun espèce de sens, mais aucune part.
Ah, la morale horrible de l'histoire.
C'est ça.
Vas-y, fuyez des orphelinats.
C'est ça, une fille qui fuit un orphelinat, puis bah, Léon qui avait trouvé une copine, bah, qui se retrouve tout seul.
Ok, bah merci pour ce spoil. Voilà, ça fait toujours plaisir.
J'espère que vous connaissez le film.
À ceux qui n'ont pas vu Léon.
Pour info,
donc c'est Léon de Luc
que
Besson.
J'ai pas vu Léon en fait.
Donc c'était Léon de Luc Besson. Voilà, et je crois qu'il est sorti en 94, si je me gourre pas.
Oui, ça doit être quelque chose comme ça, ouais.
Voilà.
Avec Léon et Nathalie Portman,
c'est ça.
Voilà, tout à fait. Et il est réalisé par notre.
Notre
gassure,
Luc
Besson.
Enfin, notre ancien gassure.
C'est bah, ça.
Bon, cela ne nous regarde pas.
Eh bah, ben merci beaucoup, Creusfeld, pour ce spoiler alert. Eh bah, ben c'est à mon tour. Eh bah, ben écoutez, les boss, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Paul McCartney est mort.
Ah merde. Bon, bah, on coupe là.
Je m'en fous, je suis plus Rolling Stone, perso.
Paul McCartney serait mort, tout du moins, au conditionnel, en 1966, entre l'enregistrement de Revolver et de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette théorie?
Alors oui.
Du complot, oui.
Mais par toi.
Ah, oui, lorsqu'on a commencé à préparer l'émission.
Oui, mais par toi. Non, j'ai déjà entendu cette théorie et je ne l'ai jamais approfondie, donc je suis archi curieux. Je suis vraiment archi curieux de connaître les indices de ces personnes-là, quoi. Sérieusement,
alors,
les gars.
Justement, en fait, ce que je trouvais mortel là-dedans, c'est qu'il y a théorie du complot et théorie du complot. Là, on parle de rock'n'roll et un peu de choses qui pourraient paraître triviales, mais à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que les Beatles cartonnaient à la fin de leur carrière. Donc lorsqu'ils se sont séparés en 1970, ils avaient déjà vendu un certain nombre
The top of the pop, quoi.
Et en 2016, le chiffre annonçait 2 milliards de disques vendus, CD et vinyle compris. Donc c'est sans parler du dématérialisé, des cassettes, etc. Ce qui, d'une certaine manière, une certaine manne financière. Donc on pourrait vraiment, d'une certaine manière, parler d'une théorie du complot expliquée par une nécessité marketing, quoi, à l'époque. Taire la mort d'un Beatles, c'est la manière de s'assurer la continuité des ventes et la poursuite du groupe, en fait, tout simplement. Parce qu'il
plus de bif.
Voilà, c'est ça. Après Revolver, il y a eu Sgt. Pepper, Abbey Road, Let It Be. Enfin, il y a eu d'autres albums des Beatles. Les derniers, on était plutôt en fin de carrière, quand même. En fin de carrière du groupe. Comment est née cette théorie? Eh bien, écoutez, en 1969, donc après, c'était le 12 octobre d'ailleurs, et précisément, juste après la sortie de l'album Abbey Road, qui est survenu à la toute fin du mois de septembre 69, c'est un animateur de radio de Détroit qui a reçu un appel d'un invité qui lui a conseillé d'écouter le début de Revolution 9 à l'envers. Alors déjà, en soi, écouter un album des Beatles à l'envers, c'est un délire, d'autant plus que les Beatles avaient commencé à prendre l'habitude d'enregistrer certains de leurs samples et de les passer à l'envers. Donc en fait, d'une certaine manière, c'était un peu écouter des morceaux à l'endroit. Enfin, c'était
bienvenue
vraiment
dans
quelque chose de
moi chelou. Bienvenue dans...
je suis perdu.
Bienvenue dans Stranger Things avec Leopard Down.
C'était quelque chose de délirant. Bref, Abbey Road vient de sortir. Et donc, Russ Gibbs reçoit l'appel d'un auditeur qui lui dit « Écoutez cet extrait à l'envers, s'il vous plaît. »
Number 9. Number 9.
Il s'agit donc de l'intro de Revolution 9, qui est un collage de 8 minutes qui est infernal. Je vous conseille de ne pas l'écouter, ce morceau. Il est vraiment atroce. Et bien écoutez, je vais vous le passer à l'envers et là vous allez peut-être comprendre de quoi il retourne. Je vais vous le repasser parce que moi je trouve quand j'ai préparé l'extrait, j'avoue c'était un peu anxiogène. Turn me on, dead man. Turn me on, dead man. Allume-moi, homme mort.
Ça y est, j'ai la chair de poule.
Oh là là, je vous raconte pas, quand j'ai préparé les samples, moi j'étais vraiment, je flippais. J'étais tout seul, c'était en plein jour, hein, mais Turn me on, dead man, c'est ce que l'auditeur a entendu.
Allume-moi, homme mort.
Allume-moi, homme mort.
Clairement, tu mets cette musique-là quand on va chez une copine par chez nous, tu ressors jamais du bois. Quoi.
C'est ça. Ouais. Donc voilà, l'auditeur, donc, je ne sais pas pourquoi s'est fait un délire et s'est passé des vinyles à l'envers, mais comment est-ce qu'il en est arrivé là à se dire mais Paul est mort, Paul is dead. Juste après, comme je vous disais, c'est survenu juste après la sortie d'Abbey Road. Ce qu'il faut savoir, c'est que Abbey Road a une pochette d'album, comme à peu près tous les albums qui sortent physiquement, ou même pas forcément d'ailleurs, même aujourd'hui. Ce qui est pas tant de voir, c'est que les albums qui sortent en dématérialisé ont leur visuel.
Oui, c'est une tradition. C'est quand même
dingue.
À part Poésie Zéro qui sort des albums bleus.
Oui, mais oui. Ils sont bleus.
Mais ils ont une pochette.
Ouais. Mais ils sont bleus, ouais. Mais
comme d'ailleurs, l'album bleu.
Tout comme les Beatles, en fait, qui ont sorti. Enfin, pour le coup, c'est une compilation, mais ouais. Voilà, qui correspond à la fin de leur carrière. On peut. De là à dire que Poésie Zéro fait un clin d'œil aux Beatles.
Poésie Zéro.
Il n'y a qu'un pas. Et en parlant de pas, c'est le cas de le dire. Ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des indices qui étaient la théorie que Paul McCartney serait mort donc en 1966 émanent de la pochette d'Abbey Road. Ce qu'il faut donc, c'est une pochette qui est très connue. Voilà, le groupe traverse Abbey Road juste devant, devant un passage piéton qui est juste devant les studios d'EMI, là où ils enregistraient leurs albums. Les quatre membres du groupe traversent la rue sur le passage piéton, le fameux. Et Paul McCartney est le seul qui est pieds nus.
Polo, comme on l'appelle.
Polo, le fameux. Mais pourquoi est-il pieds nus? Eh bien, certains fans ont émis l'hypothèse que s'il est pieds nus, c'est parce que en Inde, lorsqu'on enterre quelqu'un, on le met pieds nus dans sa tombe. Voilà. Beaucoup de choses sont parties de là et sorties de ce fait. Les fans ont commencé à dire mais pourquoi est-ce que ce serait lié à son éventuel décès? Et comme toute bonne théorie du complot, on aime bien chercher les preuves et on en trouve souvent là où elles ne sont pas. Paul est pieds nus. Paul a le pied droit devant, comme dans certaines cultures. Et on rentre dans le monde des morts avec le pied droit en premier et pas avec le pied gauche, alors que ses camarades sur la photo ont tous leur pied gauche devant. Tant qu'il a ouvert la photo, là, il est en train de le constater. Ah ouais, il est en train de constater que Paul est le seul qui a le pied droit devant en train de passager le passage piéton.
Il a toutes les écailles qui frémissent.
C'est ça. Ouais. Les fans ont filé la métaphore donc de la métaphore funèbre en se disant que si John était habillé en blanc, c'est parce que c'était la Trinité ou le Saint-Esprit, que si Ringo est en noir, c'est parce que c'est le croque-mort, et si George est habillé en jean, c'est parce que c'est tout simplement le fossoyeur.
Ouais, non, mais ça va vraiment loin, hein, mais ouais. Je suis d'accord. Hein. Il ressemble à Jésus quand même. Hein.
C'est vrai. Les fans ont continué. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. Il doit y avoir d'autres indices qui indiquent la mort de Paul.
Est-ce que ça va genre lire des plaques d'immatriculation ou des trucs? Ah putain.
On y arrive. Non. On y arrive. Déjà sur la photo, sur la voie garée sur la droite, on peut apercevoir un van noir qui serait soit un van de police, la police qui aurait couvert la mort de Paul dans un accident de voiture qu'il a réellement eu en 1966, entre les deux enregistrements, entre l'enregistrement après Revolver et pour l'enregistrement de Sgt. Pepper. Donc ce serait soit un van de police qui ferait référence à la police qui a couvert l'information, ou un corbillard. Ensuite, ensuite, il y a la plaque de la fameuse coccinelle qui s'est dit Beatle au passage.
J'y serais allé direct, quoi.
Voilà, la coccinelle blanche de la photographie qui affiche la plaque d'immatriculation LMW281F ou LMW28IF, ce qui donnerait Living McCartney would if he was 28, ce qui signifie « McCartney serait vivant s'il avait eu 28 ans ». Au moment où il serait mort, normalement, il aurait dû... Enfin, en tout cas...
S'il était vivant, il aurait 28 ans.
C'est ça. À l'époque de, la sortie d'Abbey Road, il aurait eu 27 ans. Mais en Inde, la première année, l'âge commence
à la grossesse,
à la conception. Ce qui fait qu'il aurait eu 28 ans le jour de la sortie d'Abbey Road et pas 27. Il faut également voir que sur la photo que Paul McCartney porte une cigarette, il la tient dans sa main droite alors qu'il est gaucher, ce qui éventuellement supposerait qu'il s'agit d'un sosie. Donc on en est là. Et il y a autre chose. On va en parler après. Il y a un terme d'argot, le coffin nail, le clou de cercueil, qui désigne les cigarettes en anglais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au verso de l'album, il y a également une pseudo-onde qui évoquerait la faucheuse. Enfin, là, on est vraiment, vraiment sur du bon délire. Comme je vous expliquais tout à l'heure, les fans ont filé cette hypothèse parce qu'effectivement Paul McCartney a eu un accident de voiture à la fin de l'année 1966 après une session d'enregistrement qui aurait mené à une dispute avec ses camarades de l'époque. Et je vais y arriver, j'ai pouf pouf. Je reprends.
C'est les 50 ans d'Abbey Road au passage.
Concentration, donc, c'est tout récent.
C'est un bon choix de sujet.
C'est vrai que c'est tout récent.
Je crois que c'est aujourd'hui en plus vraiment les 50 ans d'Abbey Road, hein, tout simplement. Je suis en train de checker.
D'accord.
Ça vite fait. Ça date du 1er octobre aux États-Unis.
Et donc c'était hier. Hein. Donc, la sortie américaine hier.
Peut-être être aujourd'hui.
Ouais. C'est vrai. Et donc du coup, ayant eu cet accident et ayant une dent cassée et une lèvre fendue, Paul McCartney s'est laissé pousser la barbe à cette époque-là pour cacher sa blessure. Sauf qu'il avait déclaré dans une interview auparavant qu'il était un berbe, ce qui a fait jaser les fans qui se sont dit « Oh là là, encore un sosie !»
Titos, encore un indice. Tu peux prendre un sosie si tu veux de la barbe.
C'est ça. Donc voilà, et à partir de là, les fans se sont dit « Mais il y a peut-être d'autres indices dans d'autres pochettes. » Donc, ils sont allés voir Sgt. Pepper.
Oh, cool.
Et dans Sgt. Pepper, figurez-vous que nos amis compétitifs du rock'n'roll ont quand même réussi à trouver des indices qui supposeraient... donc, Sgt. Pepper, qui est l'album suivant la mort théorique de Paul, ils ont réussi à trouver des indices des indices supposément laissés par les membres vivants des Beatles, si eux-mêmes ne sont pas des sosies.
Alors, ceux qui ne connaissent pas la pochette, c'est une pochette haute en couleur où il y a plein de gens en photo, en fait, avec des fleurs. Donc, tout le monde connaît la pochette, en fait. Tout le monde ne sait pas que c'est forcément Sgt. Pepper, mais dans le visuel, tout le monde a déjà vu cette photo, en fait, ou cet album.
Qui a pas mal été détourné.
Ouais, elle est super détournée. En bas, c'est des fleurs où c'est marqué les Beatles et il y a plein de gens derrière. Donc, les affiches de théâtre et tout ça, il y a souvent du détournement de cette affiche. Donc, c'est une affiche que tout le monde connaît. Les affiches des Beatles, de manière générale, je crois que tout le monde les connaît de tout partout, quoi. Donc.
Oui, je pense bien. Ouais. Enfin, en tout cas, voilà, c'est des images qui sont quand même beaucoup rentrées dans la pop culture. Parmi le premier, moi, que je connaissais déjà auparavant, avant de faire mes petites recherches, il y a l'histoire de la grosse caisse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, comme l'expliquait Guy, il y a les Beatles qui posent en tenue d'apparat avec plein de personnages célèbres, en fait, tout du moins des gens qui ont importé ou qui ont influé sur le monde tel qu'ils le connaissaient à l'époque de la sortie de l'album. Et il y a une grosse caisse qui est posée, en fait, au milieu d'eux. Et en coupant, il y a marqué Lonely Hearts, en fait, sur la grosse caisse, qui est une partie du titre de l'album. C'est Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En coupant en longueur Lonely Hearts et en appliquant un effet miroir, ça donnerait 1, 1, 9 en chiffre romain, I, un losange, die. Ce qui donnerait 11, 9, I, die. ce qui serait la date supposée de la mort de Paul McCartney, le 9 novembre ou le 11 septembre 1966. En fonction des théories, la date varie en fait. C'est soit le 11 septembre 1966, soit le 9 novembre 1966.
Les gars, mettez-vous d'accord, quoi.
C'est ça. Sur la pochette de l'album, il y a aussi tout devant, il y a marqué The Beatles en fleurs rouges et une espèce de guitare en fleurs jaunes. Orienté comme un gaucher, une base de gaucher, ce serait une cérémonie funèbre en l'honneur de Paul McCartney. À l'intérieur de l'album, lorsque vous l'ouvrez, il y a les paroles. C'est au verso de l'album. Mais à l'intérieur, il y a une photo des quatre Beatles posant les uns avec les autres. Et Paul porte, donc comme ses amis, un costume bleu. Et sur son bras gauche, si je ne dis pas de bêtises, il y a un patch noir, apparemment annonçant OPD, ce qui signifierait Officially Pronounced Dead, prononcé mort officiellement. Voilà, ce serait. Alors qu'il s'agit en fait de OPP, Ontario Provincial Police, la police provinciale de l'Ontario. Et donc au verso de l'album, il y a les quatre Beatles et les paroles des chansons de l'album qui sont indiquées. McCartney est le seul qui est de dos, avec sa tenue bleue.
Comme par hasard.
Comme par hasard. Et juste au-dessus de sa tête, le titre d'une des chansons de l'album, Within You, Without You.
Comme
sans
par
toi,
hasard.
Paul. Voilà, et il y aurait dans l'album ma chanson préférée des Beatles qui s'appelle A Day in the Life, il y aurait une référence à la mort de Paul. Je vais vous faire écouter ça tout de suite. He blew his mind out in a car. He blew his mind out in a car. Il s'est éclaté la tête dans une voiture, sachant que la mort de Paul serait survenue dans un accident de la circulation. Ouais. Alors, les théories varient. Soit il serait mort dans un accident de mobylette. Enfin, en tout cas, il a eu un accident de mobylette. Ça, c'est une certitude. Mais il serait mort dans un accident de voiture. Il
en a pas. Tant qu'il ne touche pas une trottinette, moi, ça...
C'est ça. Il en a pas fallu beaucoup plus aux fans pour se déchaîner, et il y en a même certains qui sont allés jusqu'à chercher dans des albums antérieurs à la mort supposée de Paul pour essayer de trouver des indices sur sa mort.
Comme quoi, Paul allait mourir, quoi.
Ouais, c'est ça.
Les gars, je vais mourir, alors je vais laisser une trace que je vais mourir un jour, mais
surtout mourir par accident. Ouais, on va le prévoir.
Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. On va le prévoir. Et puis, vous inquiétez pas, mes potes vont laisser des indices dans le délire pour que vous le sachiez.
C'est plus loin que le comme par hasard, là. C'est genre.
C'est ça.
Avant du par hasard, quoi.
Je vais continuer avec les indices sonores faut croire que les fans de BTS adorent se passer les albums à l'envers. Dans une chanson, à la toute fin d'une chanson qui s'appelle I'm So Tired. Tired, pardon. Je suis si fatigué, donc, dans l'album blanc. Voici ce qu'on a fait. Voilà, simplement. Hein, certains entendent John Lennon marmonner un truc. Il a l'air bourré ou défoncé. On ne sait pas trop.
Ou les deux.
Et bien, si on le passe à l'envers, qu'est-ce que ça donne?
Moi je parle pas russe, mais.
Ah ouais, je mange du pain.
Paul is dead now, miss him, miss him, miss him.
Vas-y, relance. Alors là, on va revenir à un truc. Franchement, les gars, vous avez tous vu les vidéos des hallucinations auditives. Ouais. C'est simple.
Quand on te le dit,
tu mets un sous-titre, tu l'entends. Moi, je l'ai entendu, la Paul is dead. Hein. Je suis d'accord.
Hein. Ouais. Paul is dead now, missim, missim, missim. Paul est mort. Désormais, il me manque. Et bah, s'il y avait que ça.
Encore.
Strawberry Fields. Dans cet extrait, John Lennon dit, alors je pense que l'ingénieur du son a dû ralentir pour lui donner cet aspect un peu grave, a dû ralentir la piste, mais je vais me le repasser pour moi. il aurait dit « I buried Paul », j'ai enterré Paul. Alors qu'en fait, il dit « cranberry sauce ». Sauce au canneberge, ce qui correspond vachement plus au délire des Beatles. Voilà les paroles un peu random. Et comment Paul a réagi à toutes ces rumeurs? Parce que mine de rien, c'est quand même lui qui est concerné au premier chef.
Moi, je demande un test ADN. Mais...
À l'époque, ça le faisait quand même vachement marrer. Il disait, oh mince, je suis... Alors, je ne donne pas la citation exacte, mais en gros, c'était... Ah oui, d'accord, je suis mort. Bah, ça comme d'hab, je suis le dernier au courant, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc Paul McCartney a eu une carrière solo qui, au demeurant, est quand même relativement fournie. Ce n'est pas le cas de John Lennon qui est décédé en 1980 et de George Harrison qui est mort bien plus tard, la fin des années 90, voire au début des années 2000. Je crois que c'était en 2001 ou en 2002 qu'il est décédé. néanmoins, en 93, Paul sort un album live qu'il décide d'appeler « Paul is Live ». Et il reproduit la photo d'Abbey Road avec la même Beatle et la plaque 51 is. J'ai 51 ans et je suis bien là. ce qui est quand même plutôt habile.
Personne ne sait si c'est le sosie qui a pris la photo, par contre.
Mais peut-être que ceci n'est qu'une théorie du complot, on ne sait pas.
Ou que le sosie s'est fait énormément de thunes.
Et au demeurant, pour préparer cette intervention, j'ai aussi regardé un court-métrage qui s'appelle Paul is Dead, un court-métrage anglais qui dure un quart d'heure. Enfin voilà, le film en gros dure une dizaine de minutes. Et où, pendant une retraite musicale à 4, les Beatles constatent la mort de Paul au tout début du court-métrage et décident de le remplacer par un mec qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau dans un bar, un mec qu'il rencontre dans un bar et qui s'appelle Billy Cheers, qui est l'alter ego de Ringo Starr dans Sgt. Pepper's. Voilà.
Classe. Okay. Belle théorie du complot, moi j'aime bien.
Bien sympa.
Ouais.
Alors, j'avais pas entendu autant d'indices, je trouve ça plutôt cool et ça me fait penser aux chansons écoutées à l'envers et notamment à Stairway to Heaven. Écoutées à l'envers, vous avez déjà écouté à la fin de Stairway to Heaven à l'envers?
Non.
Ça fait partie, je sais pas si on peut appeler ça une théorie du complot. En fait, a priori, les Zeppelin, c'est des mauvais musiciens.
Et le seul moyen, c'est pas une théorie du complot. Hein.
Le seul moyen d'être des bons musiciens, c'est d'avoir vendu son âme au diable.
Ah oui,
et
d'accord.
Ils ont vendu leur âme au diable et la preuve est dans Stairway to Heaven. Si vous le passez à l'envers, ce qui est absolument dégueulasse, hein, parce qu'ils avaient, des pratiques musicales normales, on va dire, et passer un mozo à l'envers, et on entend un truc genre there is in me Satan ou des choses comme ça, quoi. Et donc il y avait cette théorie comme quoi bah, Led Zepp, ils ont vendu leur âme au diable pour faire de la bonne musique, quoi.
Et bah, tu sais quoi, c'est vraiment super marrant que tu parles de vendre son âme au diable parce que c'est le sujet de O Brother, figure-toi.
Oui, tout à fait.
Où, comment dire, alors je me souviens plus du nom du personnage, mais
le
en gros, c'est,
noir,
la, c'est ça, qui en fait représente Robert Johnson. Robert Johnson, qui était un bluesman donc, vraiment du début du XXe siècle, qui est décédé en 1938. Et Robert Johnson est réputé avoir vendu son âme au diable pour que le diable lui apprenne la guitare et le blues, quoi.
C'est ça.
Et ça relève complètement de ça. Et dans O Brother, c'est exactement...
Ils le croisent. Juste avant l'enregistrement de leur
disque. C'est ça.
Ouais.
Tout à fait. Et il l'emmène avec eux pour qu'il les accompagne à la guitare parce que voilà, le diable lui aurait confié le talent de jouer de la guitare.
Alors, moi, j'en connais d'autres qui ont confié leur âme au diable et qui jouent super bien. C'est Tenacious D. Hein.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Mais là, il n'y a pas besoin de théorie du complot, quoi. Les gars, ils ont officiellement vendu leur âme au diable, quoi.
Oui, donc, et puis le diable vient dans leur clip, donc il n'y a aucun problème.
Hein. Dave Grohl, big up.
Ouais, mais clairement, oui, je vous recommande clairement O Brother, qui est bien cool. Et pour les Beatles, je crois que tu l'as vu, Tino, Yesterday.
Je suis allé le voir,
qui était plutôt un film vraiment pas mal. Ouais.
Très, très bien, ouais. Très, très bien. Je trouve qui en fait a l'intérêt de pas tomber dans le piège de mettre les Beatles à tout bout de champ. C'est-à-dire que la bande-son, ce que je trouve vraiment chouette, c'est que la bande-son évoque les Beatles sans jamais les jouer. Tous les morceaux des Beatles sont joués par le personnage dont le nom m'échappe.
Par l'acteur principal.
Mais c'est ça, par le personnage principal. Mais à chaque fois qu'il y a de la musique originale, ce n'est jamais les Beatles, par définition. Mais l'univers sonore est complètement respecté. Et je trouve l'histoire ultra British en même temps, c'est Danny Boyle qui réalise. Donc je vois difficilement comment ça pourrait être plus britannique, quoi.
Bah, c'est-à-dire que nous, on a déjà eu notre Jean-Philippe oui. en France. Quoi.
Oui, c'est vrai, ouais. c'est ça. Oui, c'est ça, c'est le...
C'est leur Jean-Philippe
c'est
à eux,
leur, quoi. C'est un Jean-Philippe, mais sur le groupe qui a vendu le plus de musique au monde, quoi. Donc, peut-être le groupe qui a eu le plus de succès au monde.
Après Poésie Zéro, par contre.
Après Poésie Zéro.
Oui, on est d'accord.
C'est ça.
Fixe-nous.
Voilà, c'est ma théorie du complot et bah, j'espère cool. que ça vous a bien
et
en plus.
Super les garçons. Intéressante parce que, encore une fois, on va sur le trouver des preuves là où il n'y en a pas. Quoi. Et c'est, on vient sur des mécanismes.
Quand tu crois à quelque chose, tout y fait penser.
Ouais, voilà.
Exactement. Et ben, je pense que ça va être le temps de profiter d'une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu en penses,
ouais,
toi, alors, raconte-nous tout. Alors, qu'est-ce que tu as choisi ?
Je vous propose qu'on écoute un extrait musical, voire une chanson complète de Blink 182. Tout simplement. Je sais plus laquelle elle s'appelle, comment c'est son titre, ça doit être Shut Up tout simplement.
C'est ça, je l'ai pas sous les yeux, mais c'est ça.
Sur un de mes albums préférés de Blink, et je vous propose de l'écouter et on en discute juste après parce qu'elle est liée au thème d'une manière plutôt surprenante.
Et ben c'est parti, on s'envoie ça et puis on en discute après. Tanguy, c'était quoi cette petite cam là?
Eh ben, ça sort de mon album préféré de Blink qui est sorti en 2001 également, le 12 juin. Et en fait, la théorie là-dessus, je sais pas si vous l'avez ou pas. Mmh.
Alors, donc le morceau s'appelle Shut Up, c'est ça?
Le morceau s'appelle tout simplement Shut Up, c'est sur Take Off Your Pants and Jacket, donc un des meilleurs albums de Blink pour moi. Je pense que la théorie du complot, vous ne l'aurez pas du tout, parce qu'en fait, il n'y en a quasiment pas. C'est par rapport à Tom DeLonge, qui est l'ancien leader du groupe Blink 182.
D'accord.
182, okay. 182 pour les... qui a quitté le groupe, donc le groupe s'est splitté, ils se sont reformés, il a quitté le groupe il n'y a pas longtemps. Et en fait, son nouveau boulot, il travaille en tant que chercheur pour les ovnis au sein du gouvernement américain. Et ouais, il a une nouvelle carrière qui s'offre à lui et il est réputé dedans, il est devenu chercheur en fait, donc ils appellent ça UFO Chercher là-bas, et il travaille pour le Pentagone, il fait des documentaires, et en fait il a expliqué tout simplement que depuis tout petit il a été bercé par Star Wars et qu'en fait il croit aux aliens.
Ouais, comme tout le monde.
Exactement, comme tout le monde. Mais lui, c'est son boulot maintenant.
Et bah, c'est méga intéressant parce que croire aux aliens, pour moi, ça relève pas vraiment de la théorie du complot. Parce
non,
que...
la théorie du complot, c'est de nous dire que les aliens sont pas venus sur Terre.
Exactement. Et donc,
ça, c'est autre chose.
Et donc, son documentaire se base notamment sur les dernières images du Pentagone ayant croisé des objets dans le ciel évoquant des ovnis, la zone 51. Donc, malheureusement... Il fait partie de ce métier de chercheur sur les ovnis et n'a pas tous les accès, notamment de la zone 51, a priori. Et donc, du coup, ça alimente un petit peu le fait qu'ils sont parmi nous, quoi.
Ça, on le sait.
Et pourquoi pas ? Après tout, il y a bien une bande de mecs qui essaient de forcer les portes de la zone 51 pour...
Et Giscard s'est pas prononcé là-dessus. Visiter. Vous savez pourquoi ? Parce que Giscard, il est reptilien. Et ça, c'est su depuis des années, comme Chirac est reptilien. Voilà. C'est une autre théorie du complot. Celle-là, elle est juste checkée sur Internet. Reptilien, mais c'est magique.
Et ça, tu le connais bien, toi ?
Ouais, moi j'adore ça, mais franchement.
Peut-être parce que...
Ah mais Guy est un reptile.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, mais chut, ce sera notre...
Alors que toi, Tino, t'es Illuminati, toi.
Complètement, et toi t'es franc-maçon.
Immulété, c'est les gens qu'on émulé, c'est ça.
je suis mulétien.
Eh bien, merci pour cette petite pause, Tanguy, et on va filer la parole à notre ami Crossfell, mais juste après, ces petites transitions.
Ok, alors... Moi, ça va être un petit peu plus court. Alors, j'ai.
Titre.
Voilà.
Voilà, ça joue plaisir.
On n'avait pas dit encore, merci.
Non, en gros, j'ai choisi un thème parmi les jeux vidéo. Quelque chose qu'on a, je pense, tous connu. Alors, plus ou moins à des gros degrés, mais. Les Pokémon.
Ok. Alors, okay. Je vois absolument pas où il veut venir. Faut savoir qu'il nous regarde avec des gros yeux en disant, vous voyez ce que je vois? Non, pas du tout.
Justement, je suis bien content que vous soyez surpris là-dessus.
Les Pokémon.
Donc alors, voilà. J'ai une petite théorie du complot, une plus grosse, et après j'ai en gros deux théories qui sont pas du complot, mais je trouvais ça cool de. En fait, c'est les théories sur l'histoire de Pokémon. Qu'est-ce que ça aurait, enfin pourquoi il y a eu ces choses-là, etc.
D'accord.
Alors à démarrer par la toute petite théorie du complot, parce que ça c'est assez classique. Voilà, il y a des protestants aux USA qui pensent que les Pokémon prônent le satanisme.
Bon. En toute simplicité.
Voilà, c'est tout simple, c'est classique et tout.
J'ai pas vu
alors,
dire.
Il y a quelques arguments. Déjà, les Pokémon, on les capture, on les invoque pour effectuer une tâche. Ce qui est globalement, si vous avez
bon
déjà
point,
vu Hellblazer ou Constantine ou quoi que ce soit, bah, les démons, tu...
Moi, j'ai déjà joué à In Nomine Satanis avec toi et ça me suffit.
Voilà, on convoque et on invoque des démons.
Okay.
Ils évoluent. Okay. Ce qui est contraire à la théorie de l'évolution et donc de ce qu'on a parlé tout à l'heure du créationnisme.
Ok, deux points pour eux.
Enfin, voilà. Ce qui est conforme à l'évolution et donc contraire au créationnisme.
Oui, c'est ça, voilà.
Oui.
Mais ça, voilà, ça rejoint ce dont on a parlé.
C'est ça.
Ils ont des pouvoirs psy et paranormaux qui n'ont pas été donnés par Dieu, donc forcément passés par Satan.
Ok, trois points.
On est à trois points. Et ensuite, y en a pas mal qui ont des traditions asiatiques, qui font des arts martiaux, etc. Et ce sont des rites païens. Dans certaines religions, dont les chrétiens protestants ultra radicaux, etc. Donc on va dire que c'est deux ou trois et demi.
Trois points accordés. Moi,
je dis deux points pour Poudlard. C'est bon, les Pokémon, c'est sataniste. Ouais. Bon, alors ça, c'était la petite intro. Ensuite, la vraie théorie du complot chez les Pokémon. C'est assez récent. Ça date de 2016. Si je vous parle de John Hank, vous savez qui c'est ou pas? Je pense pas, il y a peu de chances que vous sachiez.
Le frère de Tom?
Tom Hank, ouais, c'est ça.
Non.
Non, alors, il faut savoir que c'est une personne qui travaillait chez Google. Alors, il a fait des choses avant et développé des jeux vidéo. Il était embauché chez Google pour faire principalement de la géolocalisation. Elle a bossé sur Google Earth, Google Maps, Google Street View, etc.
Google Plus?
Alors, a priori, lui, c'était un stagiaire.
Ok.
Non, donc cette personne en fait a bossé pour Google. Elle a développé une entreprise qui s'appelait K-Hall, qui a été aussi rachetée par Google en 2004. Et il faut savoir que cette personne, donc après être passée par Google Earth, etc., a fondé une entreprise de jeux vidéo. Je ne vais pas vous donner le nom, sinon ça serait trop simple, mais cette entreprise a créé Ingress. Elle a créé Harry Potter Wizard Unity. Et en 2015, elle a créé Pokémon Go. Cette entreprise s'appelle Niantic. Et la théorie, c'est que John Hank a reçu des fonds de la CIA quand il était PDG de l'entreprise K-Hall. Alors ça, par contre, c'est vrai. Puisque K-Hall a été financé par InQtel, qui est un fonds d'investissement pas que de la CIA, mais entre autres, en fait. C'est un fonds d'investissement sur des technologies qui ont des intérêts nationaux aux États-Unis. Alors, en gros, la CIA s'en sert en mode, en l'occurrence, c'est quelque chose que j'avais lu, mais en gros, si on a besoin d'avoir des mécanismes pour traquer des gens qui trichent au casino, on va investir dans une boîte qui fait ce genre de calcul-là.
Et la reconnaissance faciale, du calcul.
Voilà. Et cette boîte-là va développer le truc et on va s'en servir. En fait, ils partent du principe que la CIA n'a pas le budget d'investir en tout. Donc, ils ont un fonds d'investissement qui investit dans des boîtes privées qui, eux, vont développer les technologies.
Pas bête.
Donc, ce fonds-là, InQtel, a investi à l'époque dans K-Hall, la boîte de John Hank. On a la CIA, on a John Hank. John Hank passe chez Google, donc où il développe ses compétences de géolocalisation, de traitement de données, etc. Et il s'en va de chez pour fonder Niantic. Niantic, donc il faut savoir qu'une fois qu'il se sépare de Google, c'est financé par Google, par Nintendo et par Pokémon, pour pouvoir lancer Pokémon Go. Et donc toute la théorie sort d'un site internet qui s'appelle Sputnik News. Bien sûr, c'est russe.
Comme par hasard.
Qui dit que Pokémon Go, ce n'est juste qu'une bague d'or dans vos poches pour géolocaliser tous les joueurs par la CIA. Alors, bon, là comme ça paraît un peu ridicule, hein, mais en vrai, c'est pas si débile que ça. Les arguments sont... Alors, en fait, c'est les contre-arguments que je vais vous donner, mais en gros, Sputnik dit à l'installation de Pokémon Go, oui, on vous demande de prendre des photos des Pokémon que vous attrapez, on vous demande de vous géolocaliser pour savoir où vous êtes. Donc, toutes ces données-là, vu que c'est John Hank qui les fait avec Niantic, ce sont des données qui sont envoyées à la CIA et eux peuvent géolocaliser tout le monde. Ah, il faut savoir qu'on a des journaux français, Le Monde, Le Soir, etc., qui ont repris tous ces arguments. Enfin, c'est des arguments tout bateau, hein, mais en disant, non, c'est pas possible. Donc, par exemple, une des informations que Sputnik mettait en avant, c'était qu'il pouvait avoir tout l'image et le son de notre téléphone. Et quand vous installez l'application, jamais on vous demande l'autorisation d'utiliser le micro, par exemple. Donc déjà, ça, c'est un peu débile. Ensuite, dans la charte de l'application, il est dit qu'ils peuvent donner des informations aux autorités. Mais en fait, si vous lisez la charte de toutes les applications que vous donnez, c'est le cas de toutes les applications, en fait, en cas de décision de justice, etc. Ils sont obligés de donner les informations. Donc, en fait, là-dessus, ils ne sont pas plus que les autres, quoi. Ensuite, il n'y a pas de stockage d'informations. C'est-à-dire que, si vous passez, au Havre, en théorie, ils ne sont pas censés le stocker. Alors, encore une fois, ce sont les comment ça s'appelle ? C'est leur leurs règles d'utilisation, quoi. Est-ce qu'ils le font, est-ce qu'ils le font pas, ça c'est pas prouvé. Mais en tout cas, ça serait pas pire qu'ailleurs. On a bien découvert que Facebook stockait des trucs dont on voulait pas. Mais disons que là, ils sont pas pires que d'autres. Et ensuite, il y avait eu une grosse plainte parce que la première version de l'application de Pokémon Go demandait l'accès au compte Gmail. Et Niantic s'est défendu en expliquant que ça, c'était un bug, etc. et que ça devait pas faire ça. Et suite à une des mises à jour qui a été faite assez vite derrière, ça a été retiré. Bon, voilà. Est-ce que peut-être qu'ils se sont dit « Ah, c'est un peu trop gros, on va le retirer ?» Ou est-ce que c'était vraiment une erreur ? On ne saura jamais. Donc, juste pour vous dire, alors c'est peut-être un des sites geeks que tu avais trouvé, mais sur Infowars.com.
Allez-y, c'est top.
C'est un beau site, tout beau. Ils ont dit le logiciel de réalité change les smartphones en sondes impérialistes. Et ça, je trouve ça très beau comme citation.
Alors, Infowars, pour savoir, c'est bien ce qui me semblait, c'est Alex Jones. Et Alex Jones, si vous avez l'occasion de parler un peu anglais et de pouvoir écouter deux, trois trucs qu'il raconte,
allez-y.
C'est un bonheur pur.
Il y a énormément de live, énormément de vidéos. Pas mal d'articles et tout, enfin, c'est vraiment du bonheur en barre.
Ouais, ça me fait penser à la polémique récente qu'il y a eu par rapport aux téléphones Huawei.
Ouais.
Qui ont été.
Backdoor du site japonais.
Ouais. J'allais changer de téléphone et, genre, la veille, il y avait ce problème avec les téléphones chinois qui m'ont fait, en tout cas, personnellement, décider à pas en prendre un, en fait. Prendre. Ouais, c'est ça. Parce que je me suis dit, mais attends, c'est des espions. Enfin,
mais là, rien ne prouve que ce n'est pas vrai, en fait.
Non, c'est...
Mais les quelques arguments que Sputnik News a donnés ne sont pas suffisamment crédibles pour qu'on y croit. Mais en même temps, rien ne dit que c'est faux. Bon, voilà, ça c'était ma petite théorie du complot Pokémon Go, et puis maintenant je vais vous parler de deux théories qui sont pas vraiment du complot, mais qui sont des théories que les joueurs ont données sur Pokémon, et que l'une je trouve marrante et un peu glauque, et l'autre qui franchement pourrait coller. Alors on commence par la plus dégueulasse, parce que je la trouve marrante. C'est une théorie qui prend effet lors du premier épisode du dessin animé. Alors, si vous vous souvenez du dessin animé, il arrive trop tard, donc il peut pas avoir ses Pokémon de base. Donc le prof Shen lui file un Pikachu tout pourri. Yes. Et à la fin, il se fait victimiser par des piafs avec. Voilà. Donc la théorie commence à ce moment-là. Et dit que Sacha, là, tombe dans le coma.
Quoi ?
Et que tout ce qui se passe après, ce n'est qu'un rêve du coma. Et là-dessus, ils ajoutent deux choses, c'est que toutes les Pokémon qu'il va rencontrer sont des émotions qu'il essaie de récupérer de lui-même. Et l'autre élément, ça c'était déjà la partie glauque.
Alors j'ai hâte de voir quand est-ce qu'on va parler des sondes anales en fait.
Alors, oh là là. Pas loin, ouais, parce que ça me fait justement penser au doggy bag, c'est que, a priori dans cette théorie-là, quand il prend des décharges de Pikachu, ça serait les électrochocs qu'il lui envoie à l'hôpital pour le réveiller.
Ah, n'importe quoi.
Horrible. Alors,
enfin, n'importe quoi, je sais pas, mais c'est bizarre. Quoi.
Parce qu'on retombe sur... On en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est horrible. C'est une de mes nouvelles phobies. On vous conseille de lire la saison 2 de Doggy Bags pour découvrir une nouvelle phobie chez vous.
La deuxième nouvelle du 14e Doggy Bag est bien trash là-dessus.
Mais j'aime bien cette théorie du complot.
Cette petite théorie-là, assez marrante.
Même. Elle existe en BD, elle existe ailleurs. Elle a été développée énormément à la télé sur Walking Dead. Où les fans
qui dit que Rick s'est jamais réveillé, etc.
Comme quoi,
et oui, la théorie du coma, on la retrouve quand même dans beaucoup de choses en fait. Bon, et puis là, je vous finis sur une dernière petite théorie qui là, un peu plus poussée. Et si vous connaissez le monde, vous allez peut-être vous dire, il y a peut-être moyen d'avoir quelque chose. Alors, l'idée part du fait qu'il y a très peu d'hommes dans le monde de Pokémon. On retrouve des vieux, le prof Shen, etc. Mais globalement, tous les rôles sont tenus par des femmes. l'infirmière, les policières, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de femmes et très peu d'hommes.
J'ai l'impression d'être sur Pornhub.
Alors, je ne taperai pas Pokémon Pornhub personnellement. Non, parce que...
Ne le faites pas. Ensuite, parce que c'est sûr que vous allez trouver des trucs.
Sinon, sur Roule 34. Mais voilà. J'ai rien dit. Non, mais ça. Ensuite, Sacha et son rival ont perdu leur père. On ne sait pas comment. Voilà, ils démarrent, ils n'ont pas de père.
Comme par hasard.
Donc, la question, c'est de se dire qu'est-ce qui s'est passé pour que tous ces hommes disparaissent et que personne ne le sache. Si on avance un peu, on rencontre un monsieur qui s'appelle Major Bob.
Ouais. Voilà. Qui est le champion. Oui.
Qui est un champion.
C'est un des champions. Comme de tous.
Ce monsieur est sous-titré The Lightning American. Et quand on parle à ce Major Bob, il nous parle qu'il a fait la guerre, qu'il a utilisé Pokémon pour faire la guerre, etc. Et toute la théorie repose sur là-dessus, que l'événement qui a fait disparaître tous les hommes serait une guerre qu'il y a eu entre le monde des Pokémon et d'autres personnes qui seraient venues attaquer. Et ils auraient utilisé les Pokémon comme armes. Alors là, déjà, on peut peut-être se poser la question de pourquoi on file des Pokémon à des gamins alors qu'en fait, c'est des armes. Mais bon, ça, hein, cela ne nous regarde pas.
C'est ce que j'allais dire. Ouais.
Voilà. Mais alors, on pousse la théorie un peu plus loin. Pourquoi est-ce que dans un monde imaginaire, on retrouve le terme « American » ? Pourquoi est-ce qu'on retrouve le terme « Kanto » qui est une région du Japon ? Et pourquoi est-ce que dans la description de certains Pokémon, on retrouve le type « Cobra » souris ou taupe, qui n'existe pas dans le monde de Pokémon, on est bien d'accord, puisque tous les animaux sont des Pokémon. Okay. Donc la théorie, le niveau encore au-dessus, explique que la guerre se passerait entre le monde de Pokémon et le nôtre. Nous aurions envahi le monde de Pokémon, ce qui expliquerait pourquoi un Américain s'est battu. Et pourquoi dans des villes qui auraient été gagnées par les humains, on les aurait appelées Kanto ? Et pourquoi est-ce que des gens, des colons en fait, humains, auraient décrit des Pokémon comme des cobras, des souris ou des taupes ? Et ensuite, alors ça pour le coup, j'ai pas testé parce que je me souvenais pas, mais a priori dans cette théorie-là, ils ajoutent que les seules personnes qui connaissent les emplacements des Pokémon légendaires sont des gens qui sont en fait hostiles à vous. Et ce qui expliquerait que ce sont des gens qui font toujours de la résistance.
La rétention d'informations.
Mmh. C'est ça. Qui font de la résistance par rapport à la guerre, en fait. Alors ça, pour le coup, j'ai pas pu le tester parce que je me souvenais plus assez de ce qui se passait, quoi. Mais voilà. Celle-là, franchement, quand je l'ai vue, je me suis dit, ah, il y a peut-être moyen. Ça m'a bien perturbé. Mais n'empêche que ma petite préférée, c'est quand même Sacha et le coma, quoi.
Parce que toi, t'as un gros problème.
Ben oui, non, mais c'est pas grave. Après, qui dit que Dracolo, ça n'a pas essayé d'abuser de Sacha dans son sommeil.
Bon. Je voulais tous les deux vous remercier parce que la manière dont le sujet que j'ai proposé a été traité était super intéressant et me permet de conclure sur un point que j'avais laissé ouvert et qu'on n'a pas pu parler juste avant. C'est qu'en fait, à l'heure actuelle, les théories du complot, les théories toutes simples, marchent énormément grâce ou à cause de quoi ? À cause de toute la pop culture qu'on a autour de nous. Et c'est justement ce qui nous fait le plus peur, qui nous fait le plus fantasmer, c'est d'insérer justement tous ces mythes dans une réalité qui nous est propre directement. On peut aller voir des Spielberg, voir des choses comme ça, où en fait, bah, ça se place en 2018, 2019, et on insère un élément, un virus, on insère des zombies, on insère un nouveau président, on insère des nouvelles lois, on insère... Et en fait, toute la pop culture qui nous entoure et qu'on engendre, en fait, va faire que petit à petit, on va vouloir croire aussi en des théories du complot qui sont fun, qui sont cool... Moi, j'ai envie de croire qu'il y a des trucs vraiment qui nous possèdent derrière, qu'il y a des aliens, qu'on est...
Oui, on parlera pas d'Iron Sky.
Voilà. Oh là là, oui, non.
On n'a pas évoqué les nazis, on n'a pas évoqué... Il y a plein de théories qui germent de la pop culture ou qui sont re-racontées au travers de la pop culture qu'on lit et qu'on consomme tous les jours. Enfin,
mais tout bête, le monde du Loch Ness, pourquoi pas en fait.
Oui, oui. Oui, c'est ça, oui, mais carrément.
Sans la aller aussi loin.
La cryptozoologie, parce que c'est comme ça que ça s'appelle.
Le Dahu.
Le Dahu,
trop bien.
C'est vrai
Dahu.
Que ça repose soit sur de. Justement parce qu'on n'est pas sûr, il reste toujours la possibilité.
Rien ne peut prouver que c'est vrai, donc c'est peut-être faux. Oh, ou oui. L'inverse.
Et puis encore une fois. En parlant de théorie générale, on n'a pas parlé des calamars géants qui engloutissaient des bateaux.
Le kraken,
mais
ouais.
Des kraken entiers, quoi. Mais on trouve c'est actuellement vrai. Des calamars qui font 18 mètres de long parce qu'on n'a jamais été aussi loin.
Le kraken, mais... le yeti, le...
Voilà.
La théorie, oui, c'est ça, la théorie du complot, sans parler forcément de théorie du complot, mais voilà, toutes ces croyances, en fait, qui ne relèvent pas de la religion, parce qu'on a quand même fait la distinction tout à l'heure, elles englobent, ouais, c'est ça, une forme d'imaginaire.
C'est un imaginaire collectif, ouais.
C'est ça.
Après, en plus, si on reprend vraiment ce que disait Guy au début, c'est que, à la toute base, on a quand même une sorte de rejet de la vérité qu'on veut nous donner, en fait. Enfin, toutes les théories un peu quand même propagées, que ce soit les platistes, la marcher sur la Lune, etc. Enfin, toutes ces grosses théories-là, la base du problème reste quand même le doute et la non-confiance qu'ont les gens envers les autorités quelles qu'elles soient, en fait. Enfin, les anti-vax et la non-confiance dans la médecine,
et aussi enfin tout ça. Actuellement, l'acceptation d'une deuxième vérité, pour parler du Brexit, ouvertement Boris Johnson a dit qu'il avait diffusé de fausses informations ou une autre information, et en fait on est dans un regard différent et on accepte actuellement de dire bah, il peut y avoir plusieurs vérités pour un seul fait.
Tout à fait.
Et les théories du complot vont se baser sur ça. Mm-hmm. Le doute et puis l'envie de croire à des choses.
Sur si tant est qu'une vérité existe sur une vérité et l'existence de fake news socialement acceptées, en fait. Ce qui est... Parce que c'est ça, en fait, en définitive. Il y a l'acceptation d'une autre hypothèse qui peut être tirée par les cheveux, mais qui... Voilà, va contrebalancer, sans parler de la vérité absolue, mais voilà, qui va contrebalancer une vérité.
Et puis, encore une fois, en prenant l'exemple des platistes, qui est une théorie vieille, actuelle, etc., mais si on remonte très très loin, aux Grecs, aux Romains, ils pensaient qu'il y avait des titans qui tenaient la Terre, qui tenaient les étoiles. Donc au final, la théorie du complot, même si elle se développe plus rapidement, actuellement, grâce aux nouvelles technologies, elles ont toujours existé. C'est peut-être aussi un moyen de rêver. Alors attention, c'est toujours marrant de parler de Terre plate. Y croire, c'est différent.
Certes.
Ouais. Bravo.
Moi, je pense qu'on va pouvoir rester là-dessus. C'est parfait. Eh bien, écoutez, merci les boys. On se débriefe la petite bière ou quoi?
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est parti.
Bah, moi, clairement, je l'ai pété. C'était vraiment de la balle. Bah, j'ai rien à ajouter dessus, ouais, c'était vraiment cool.
Non, elle était bien chouette, ouais. Pas si amère que ça, en fait, en définitive.
Pour 65 IBU, pas très amère. Elles étaient servies assez fraîches. Je conseille de les servir entre 6 et 8 degrés.
C'est l'alcool, ça. C'est pas le...
Ah, merde. Non, elles sont à 5-6. Pour moi, ça vaut un bon 4 sur 5. Ça sera à regoûter une fois ou deux. Hein.
Bah, je mets plusieurs étoiles. Moi.
Ça veut dire... c'est ça, ouais. Plusieurs étoiles, on n'en donnera pas
sur
loin.
Sur un nombre illimité.
Ouais. Ce qui est sûr, c'est que ça se resservira autour d'un bon jeu de société.
C'est clair.
Et bah, écoutez, merci les boys. Merci Guy, merci Crossfell.
Merci à toi, Timon, pour
De rien, ça m'a fait bien plaisir. On se retrouve très bientôt pour un thème qui n'est pas encore complètement défini, mais il le sera incessamment. On se tient très vite au courant. Et bisous à tous, et puis bonne soirée. Enfin, en tout cas, c'est la soirée pour nous, donc bonne soirée.
Bon chou, bye bye.
C'est ça, bisous, salut.
Ciao.